Qu'est-ce qu'il lit ?
Pour découvrir l'univers d'Olivier Adam, cela se passe dans les livres et sur grand écran. En 2000, il publie « Je vais bien, ne t'en fais pas », un premier roman à succès adapté quelques années plus tard au cinéma par Philippe Lioré. Ses personnages prennent vie sous les traits de Kad Merad et Mélanie Laurent. Mais Olivier Adam ne s'arrête pas là. En 20 ans, il signe une quinzaine de romans, dont « Passer l'hiver », prix Goncourt de la nouvelle et prix des éditeurs en 2004, « Falaise » en 2005, sélectionné dans 13 prix littéraires, mais aussi « À l'abri de rien » ou « Le cœur régulier ». Lorsqu'on lit Olivier Adam, on est aussi en immersion dans une étude fine et souvent palpitante des rapports humains. On se perd dans les états d'âme des héros, souvent Antoine ou Paul. Mais l'auteur ne se contente pas d'écrire des romans, il prête aussi sa plume à des ouvrages pour la jeunesse et tient le rôle de scénariste, comme pour Welcome de Philippe Lioré avec Vincent Lindon en 2009 ou Des vents contraires de Jaïd Lespère en 2011. On le retrouve pour le Qu'est-ce qu'il lit du monde. Bonjour Olivier Adam.
Bonjour.
Nous sommes au Salon du Livre du Mans. Pendant quelques instants, nous allons faire une pause et parler ensemble de votre rapport à la lecture et à la littérature à travers une sorte de questionnaire de Proust qui a été soigneusement élaboré par le Monde des Livres et qui, on l'espère, va vous surprendre et vous déconcerter. Une première question plutôt réconfortante. Quel a été le premier livre que votre famille vous a mis dans les mains ?
Je pense que le premier dont je me souviens, en tout cas, et qui est encore dans la bibliothèque de ma chambre d'enfant, ça doit être Les Trois Brigands de Tommy Ungerer, à l'école des loisirs, et puis ensuite Ulule, je me souviens de l'avoir, d'Arnold Lobel, je me souviens de l'avoir lu, mais 120 000 fois, et puis aussi, je ne sais plus, dans ce livre Ulule, c'était suivi de, je crois, il y avait Les Deux Crapauds, là. Alors j'ai oublié le nom des Deux Crapauds, mais enfin c'était aussi d'Arnold Lobel, c'était aussi... à l'école des loisirs, et franchement, je me souviens vraiment d'un moment assez troublant. La première fois que je me suis retrouvé dans le bureau de Geneviève Brisac à l'école des loisirs, quand elle a signé mes premiers textes pour la jeunesse, et j'avais pas tellement fait le rapprochement, en fait. Entre-temps, ils avaient publié plein de choses, et puis moi, j'avais 20 bonnes années de plus. Il y avait un drôle de sentiment de publier là où étaient nés mes premières grandes émotions de jeune lecteur, ou alors je ne sais pas si je les lisais ou si on me les racontait, mais en tout cas, voilà, c'est les livres dont je me souviens vraiment d'enfant.
Les Trois Brigands de Tommy Ungerer. Il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite.
Y a-t-il un livre d'enfance que vous aimeriez relire ?
Le truc, c'est que les livres d'enfance que j'ai... aimés, je les ai lus à mes enfants, quoi. Je les ai transmis, je les ai re-achetés, j'ai pas de souvenir précis d'un livre d'un coup que je n'aurais pas lu à mes enfants, et puis de toute façon qui tourne autour de ces grands classiques-là, hein, des Tommy Ungerer, de toute cette bande d'auteurs-là.
Et est-ce que ce sont les mêmes livres qui ont ébloui vos enfants ?
Alors eux, oui, et puis eux, ils sont de la génération qui a grandi avec Claude Ponty, notamment. Mais Claude Ponty, je pense que c'est l'auteur phare de mes deux enfants, c'est à 6 ans d'intervalle, et c'est vraiment... et c'est pas juste parce que leur père et leur mère étaient auteurs à l'école des loisirs. C'est vraiment une passion dévorante pour ces... Et c'est extrêmement réconfortant. Parce que Claude Ponty, c'est pas si facile que ça. Ça échappe énormément au sens, à la logique parfois. C'est pas du tout moralisant, c'est pas du tout pédagogique, c'est assez irrévérencieux, c'est absurde parfois. Et voir que c'est vraiment un goût, c'est pas un goût que les parents ont imposé, mais que c'est vraiment un goût d'enthousiasme réel, sincère des enfants qui veulent absolument, et s'ils ont le choix, et on relit pour la millième fois tel ou tel livre de Claude Ponty. Je trouve ça beau que ce ne soit pas forcément vers les livres les plus simples, les plus marketés, ou des trucs dérivés de dessins animés, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est cette littérature jeunesse qu'on juge parfois un peu pas élitiste, mais un peu, voilà, c'est pour les parents qui lisent Télérama, qui lisent Le Monde, qui écoutent France Inter et tout ça. Non, il y a un vrai rapport direct des enfants à ces textes-là, quoi.
Sur l'île déserte, de Claude Ponty. Jules déteste le martabaf. Le martabaf n'a qu'une seule idée dans sa tête, enfoncer les clous. Dès qu'il en voit un, il tape. Le pire, c'est quand il pique sa crise. Là, il tape sur tout ce qui bouge. Il ne s'arrête que quand il a cloué tout le monde. Personnellement, j'aurais rajouté sur place, mais ce n'est que mon avis.
Quel est le lieu qui vous évoque la lecture aujourd'hui et même avant ?
Oh, avant, c'est vraiment la bibliothèque municipale, hein, parce que c'est vraiment là que j'ai fait mon chemin de lecteur. Il y avait beaucoup de livres à la maison, mais pas forcément ceux que j'avais envie de lire, d'abord par mon âge, quand j'étais au collège ou au lycée, et puis ensuite, parce que chacun a son chemin de lecture et ses goûts. Et l'image de ma formation en tant que lecteur, il y a eu un peu l'école, bien sûr, mais c'est aller à la bibliothèque plusieurs fois par semaine, se faire tous les rayons quasiment par ordre alphabétique, prendre 7-8 bouquins, puisque à l'époque même, il n'y avait aucune limite, on pouvait en prendre 15 si on voulait, rentrer chez moi dans ma chambre, les regarder sur mon bureau, là, les poser, les feuilleter, les commencer, en éliminer 14, mais par contre le 15e, celui-là, c'est celui qu'il me faut, c'est celui qui va me... Et après... dans la bibliothèque, faire mon chemin comme ça, c'est-à-dire qu'un livre m'a plu, donc je retourne lire tous les livres de cet auteur, et puis il se trouve que cet auteur-là est publié dans telle maison d'édition, dans le cadre de petites maisons d'édition à la ligne éditoriale très précise, comme POL, comme L'Olivier, comme Minuit, comme Vertical, ou des choses comme ça, ou Le Dilettante à l'époque, ou alors, je sais pas, je me rappelle très bien, j'étais au lycée, quoi. Et je tombe sur, par hasard, sur Jean-Paul Dubois. Alors, Jean-Paul Dubois, à l'époque, il n'y a pas encore eu le Goncourt et tout ça. Et j'y vais juste pour les titres, quoi. Tous les matins, je me lève. Parfois, je ris tout seul. Les poissons me regardent. Enfin, rien que les titres étaient dingues. Et puis, j'ai adoré ça. J'ai lu tous les livres. Et puis, il citait des auteurs qu'il aimait et qui l'avaient inspiré. Et c'est là comme ça que j'ai découvert un nom, Raymond Carver, Richard Ford, John Updike, qui était tout un continent littéraire en plus que je connaissais pas, la littérature américaine. Et donc, dans la bibliothèque, je vais assez voir s'il y a des Carver. Et puis, enfin, voilà. Et je fais mon chemin comme ça, par cousinage, par référence. Tel auteur m'a amené à découvrir telle collection, qui m'a amené à découvrir tels autres auteurs et tout ça. Donc, c'est vraiment la bibliothèque municipale. Voilà. Et là, je la joue un peu... attention, la littérature et tout ça, mais c'était aussi avant, j'y allais surtout pour lire des bandes dessinées, mais c'est évidemment de la lecture, et puis c'était génial, toutes ces bandes dessinées gratos, quoi. Je pouvais en prendre plein, et je passais mes après-midi. Il y a une grande vertu à l'enfance qu'on a eue, dans ma génération, où il y avait trois pauvres chaînes à la télé, et Internet n'existait pas, et etc., c'est qu'on s'ennuyait bien, et que le plus grand remède à l'ennui, c'était quand même d'aller prendre des bouquins à la bibliothèque et de passer des après-midi à lire, quoi.
Donc, il n'y a aucun livre qui vous a ennuyé ?
Ah si, plein, mais c'est ça qui est génial, la bibliothèque, c'est gratuit, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression monétaire, il n'y a pas les parents derrière qui disent « Ah, tu vas le finir parce que ça m'a coûté 20 balles, donc tu as intérêt à le finir ». Il n'y a pas la pression scolaire, du genre « Bon, bah, il faut bien le lire si tu veux avoir une bonne note au contrôle de lecture ou faire une fiche de lecture, et puis je le verrai si tu prends le profil d'une œuvre, parce que moi aussi je l'ai lu ». Non, il y a vraiment justement ce plaisir de se dire « Ce livre n'est pas pour moi, et tant pis si tout le monde a dit que c'était formidable, et je le finirai pas ». Voilà.
Et justement, est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre que tout le monde adore et qui vous tombe des mains ?
Il y en a. Alors que tout le monde adore, non. Parce que, mais il y a des auteurs ultra reconnus qui m'ennuient. Ça peut être Sade, par exemple, ça ne m'a jamais intéressé. Ou des auteurs que je trouve, entre guillemets, surestimés, quoi, on va dire. Bon, là, je vais faire bondir tout le monde, mais par exemple. Roland Barthes, par exemple, j'ai jamais compris pourquoi c'est ce délire complet autour de lui. J'ai toujours trouvé ce que j'ai lu de lui très bien, mais un peu convenu. C'est-à-dire que j'avais l'impression de lire des choses que je savais déjà. J'ai pas eu l'impression d'avoir été déporté, bougé par cette lecture-là. Alors, je sais qu'elle est absolument fondamentale pour plein de mes confrères et pour plein de gens. Enfin, là, c'est le nom qui me viennent à l'esprit comme ça. Mais... Bon, et après, il ne faut pas s'aventurer sur le contemporain, parce que alors là, les gens qui sont très reconnus et qui me tombent des mains, et les gens qui sont absolument inconnus, voire laminés par la presse et qui m'intéressent, il y en a forcément. Quoi, voilà.
Citez-en un que vous estimez beaucoup.
Que j'estime beaucoup. Ah non, mais il y a plein d'auteurs, je sais pas, non, mais des auteurs que je suis, que j'aime, qui sont pas spécialement. Pas laminés, mais qui sont pas spécialement sous la lumière, quoi, voilà. Mais là, comme ça, je sais pas, je sais plus si ça, mais ça me vient pas vraiment à l'esprit tout de suite.
Qu'est-ce qu'il lit ?
Y a-t-il un livre dont vous avez envie d'écrire la suite ?
Il y a beaucoup de livres dont j'ai envie de connaître la suite. Plutôt des auteurs dont j'attends le prochain livre, surtout. Mais un livre dont je voudrais écrire la suite, non. Non, non. Quand un livre ou une chanson exprime quelque chose, je me dis, waouh, ça, c'est, voilà, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Il a réussi à dire exactement ça. Et en fait, ça me donne une espèce d'impulsion d'écriture qui va mourir dans l'œuf, parce que assez vite je vais m'apercevoir que cette impulsion d'écriture, elle consiste à vouloir écrire ce livre qui est déjà écrit, ou cette chanson sous forme d'une nouvelle par exemple qui est déjà écrite. Donc ça m'arrive très souvent.
Vous avez un souvenir en tête d'une lecture qui vous a donné envie d'écrire ?
Quand j'ai découvert Carver, ça a été très important par rapport à l'écriture, parce que j'étais un lecteur qui aimait évidemment rêver à une autre vie que la mienne en lisant des romanciers qui parlaient de gens qui ressemblaient pas du tout aux gens qui m'entouraient, ou qui situaient leurs intrigues dans des milieux sociaux ou dans des géographies qui m'étaient inconnues ou lointaines. Mais quand j'ai découvert Carver, et ensuite toute une certaine littérature américaine qui gravitait autour de ça, et française aussi, il y a eu un sentiment de me dire « Ah ouais, en fait, on a le droit, quoi ». En fait, c'est possible de faire de la littérature, et ô combien de la grande littérature, avec ces gens-là, avec le pompiste, la barmaid, le chômeur, le pompier, le brancardier, le garagiste et tout ça. Donc en fait, même si c'était aux États-Unis, avec les gens que j'avais connus dans mon enfance, qui gravitaient autour de moi, dans la vie absolument quotidienne, normale, banale, d'une ville de banlieue, de milieu social qu'on va qualifier de classe moyenne, tout à fait lambda, quoi. Et en même temps, c'était absent de la littérature, me semblait-il. Enfin, en tout cas, c'est ce que je croyais. Et ça, ça m'a tout de suite ouvert une porte, c'est-à-dire que ça m'a autorisé, et je me suis dit, mais alors... Ah oui, s'ils le font, ça veut dire que j'ai le droit d'écrire moi aussi avec l'endroit dans lequel j'évolue et les gens que je côtoie. Et ça, ça m'a donné une... Je sais pas si ça m'a donné envie d'écrire, mais ça m'a autorisé à écrire.
9 histoires et un poème de Raymond Carver. J'en pinçais pour Donna, l'autre membre du noyau. Le jour de la soirée, on avait dansé sur des disques de Duke Ellington. La main posée au creux de ses reins, tout en évoluant sur le tapis... Je la serrais de près, je sentais le parfum de ses cheveux. C'était chouette de danser avec elle. J'étais le seul homme et il y avait 7 filles, dont 6 dansaient entre elles. Le spectacle du séjour, c'était chouette. J'étais dans la cuisine quand Donna est entrée avec son verre vide. On s'est regardé, je l'ai prise dans mes bras et on s'est embrassé. Immobile, on est resté un moment, enlacé comme ça.
Avec quel personnage de roman aimeriez-vous passer une soirée ? Pas vos propres romans, je précise.
En fait, souvent, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, ce sont les doubles narratifs des auteurs que j'aime, quoi. Voilà, donc c'est là, je pense tout de suite aux auteurs qui utilisent cette figure du double narratif. Je pense au Frank Bascombe de Richard Ford, je pense au Nathan Zuckerman de Philip Roth, je pense au Bandini de John Fante, je pense à tous les narrateurs, et sans doute le plus récent Avatar de Patrick Modiano, là, qui s'appelle Paul Bosman, je crois, dans les 4 ou 5 derniers Modiano. Je pense à tous les Pauls de Jean-Paul Dubois, je pense aux narrateurs divers et variés de Philippe Jean, mais qui sont tous un peu les mêmes en même temps. Tous ces gens-là, je serais ravi, mais je me demande si c'est pas derrière l'idée que j'aimerais bien dîner avec eux, avec les auteurs eux-mêmes, je veux dire.
Et vous l'avez jamais fait ?
À Philippe Roth, non. Non, j'ai croisé Jean-Paul Dubois ou Philippe Jean, parce qu'en 20 ans de publication, entre les médias, les salons du livre et tout ça, on se croise. Mais...
Vous souvenez-vous de la première question que vous avez posée à Jean-Paul Dubois, lui qui a accompagné vos années de bibliothèque
Jean-Paul Dubois, c'est même lui qui me posait une question, parce que j'avais, je dirais, 21 ans ou 22 ans, je commençais à écrire, et je n'avais aucune idée de ce que valait ce que j'écrivais, ou en tout cas... Je savais bien que ça valait pas encore d'être publié, mais est-ce que j'étais totalement prétentieux, totalement dingue, ou est-ce que j'avais un petit quelque chose qui laissait penser que peut-être un jour j'aurais quelque chose à voir dans ce milieu, enfin dans ce milieu, que c'était pas totalement dingue de se dire que je pourrais écrire un jour et pouvoir publier des textes. Et j'avais pas autour de moi de gens qui s'intéressaient suffisamment à la littérature contemporaine pour avoir un jugement qui me semblait important. Il n'y a pas de libraire dans la ville où je vivais. Enfin, je voyais pas à qui m'adresser. Et il m'arrivait d'envoyer des manuscrits à des maisons d'édition. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est que un auteur n'est contacté, je sais parce que j'étais éditeur moi-même, n'est contacté et on lui donne des vrais retours très précis sur ses textes que quand on a été à deux doigts de le publier, ou quand on pense qu'on le publiera peut-être au prochain manuscrit, ou je sais pas quoi. Sinon, on reçoit une lettre type, mais la lettre type qui dit, vous avez envoyé un manuscrit, merci de nous renvoyer un timbre pour qu'on vous le renvoie, et correspondant pas à la ligne éditoriale, même si, en fait, vous connaissez très bien l'éditorial et vous y correspondez, c'est une lettre type. Et elle va du livre qui a rien à voir de recette alors que vous faites de la littérature, jusqu'au roman qui pourrait globalement aller dans la ligne éditoriale, mais qui est pas exactement ça. Et qui est pas encore assez abouti, assez mûr. Donc, voilà, j'ai envoyé un texte à Jean-Paul Dubois. Monsieur Jean-Paul Dubois, édition du Seuil à l'époque, c'était avant qu'il passe à l'Olivier, enfin que Olivier Cohen l'emmène à l'Olivier, rue Jacob, 75006, j'ai posté ça, et trois jours après, dans la chambre de bonne où je vivais, rue Daru, le téléphone sonne, c'est ma compagne qui décroche, et alors là, elle me dit, mais elle tremblait, quoi, vraiment, elle dit, c'est Jean-Paul Dubois, quoi. Et franchement, Leonard Cohen, Bob Dylan ou David Bowie auraient pu m'appeler, c'est la même chose pour moi, hein. Dans l'idolâtrie, j'étais à ce niveau-là, je le suis toujours. Et c'est Jean-Paul Dubois qui m'a dit « Bonjour, je voulais vous remercier. » Parce que j'ai passé un très bon moment en lisant vos nouvelles, c'est des nouvelles que j'avais envoyées. Et puis il m'a demandé qui j'étais, ce que je faisais et comment il pouvait m'aider. Voilà. Et donc comment il pouvait m'aider, c'était filer mon manuscrit Olivier Cohen, qui dirigeait l'Olivier et qui était son éditeur, enfin qui dirige toujours l'Olivier qui était son éditeur et qui est toujours, pour avoir un avis, et puis en plus du sien, tout ça. Donc ça a été très très important, parce que quand il m'a dit « vous avez le truc », il m'a dit deux choses, il m'a dit « vous avez le truc ».
Il vous a dit texto, ouais. « Vous avez le truc ».
Il m'a dit « vous avez le truc ».«
Le truc ».
Ne faites pas autre chose, vous pouvez y aller, vous avez le droit, entre guillemets, d'être prétentieux et de croire que vous pouvez publier un jour. Et il m'a dit aussi deux choses, il m'a dit « le seul éditeur qui aura raison, c'est celui qui vous publiera ». Voilà. Donc... si on a 20 qui le refusent, envoyez-le à un 21e. Et puis, voilà, celui qui aura raison, c'est celui qui vous publiera. Et ces deux choses-là m'ont, là encore, autorisé et raffermi, s'il en était besoin, dans ma volonté de me dire, de toute façon, ça ne veut pas dire que je gagnerai ma vie avec ça, mais en tout cas, ma vie, ça sera l'écriture.
Y a-t-il un livre qui vous réconcilie avec la vie, avec l'existence ?
C'est un auteur qui, a priori, est assez loin de mes lectures habituelles. Quand je sens que je ne mets plus les choses dans le bon ordre, que les priorités ne sont plus les bonnes, je lis Christian Bobin, en fait. C'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais... je devais avoir 17 ou 18 ans, à la bibliothèque municipale de Dravet, je me souviens encore. C'est un livre qui était au temps qu'il fait, à l'époque, qui s'appelait Isabelle Bruges, qui est un livre pas du tout connu de Christian Bobin, qui était plutôt une sorte de roman, d'ailleurs. Puis après, j'ai lu tout le reste, Le Trébat, Souveraineté du vide, Lettre d'or, enfin tout. Et je sais pas, c'est un auteur avec lequel je vais même contre moi-même, parfois, parce qu'il a même des penchants, certaines... truc un peu mystique, un peu machin, qui a priori dans la vie normale me gonfle. Je suis assez athée, ultra rationnel. Et en même temps, je sais pas, ce sont des livres qui me font du bien, et puis je pense qu'ils me rendent meilleur auprès de mes proches. Parce qu'à un moment donné, après les avoir lus, je je suis peut-être un peu plus vivable.
Isabelle Bruges, de Christian Bobin. Il y a dans la vie des gens qui croient nécessaire, pour être entendus, d'adopter un ton sérieux, de prendre la voix de Dieu le Père. Ces gens-là sont à fuir. On ne peut décemment les écouter plus d'une minute. Et d'ailleurs, ils ne parlent pas, ils affirment. Ils donnent des leçons de morale, des cours de pédagogie, d'ennuyeuses leçons de maintien. Même quand ils disent vrai, ils tuent la vérité de ce qu'ils disent. Et puis, merveille des merveilles, on rencontre ici ou là des gens qui se taisent, comme dans les livres. Ceux-là, on ne se lasserait pas de les fréquenter. On est avec eux comme on est avec soi, déliés, calmes, rendus au clair silence qui est la vérité de tout.
Et des livres qui changent votre façon d'écrire ou qui ont changé votre façon d'écrire ?
Il y a des livres et des chansons, il y a des chanteurs aussi. Hein. C'est-à-dire que je me souviens très bien de l'espèce de moment où je découvre à la fois Henri Calais, à la fois Raymond Carver et à la fois les chansons de Dominique A. Et où, avant ça, j'étais très ampoulé, très lyrique, c'était avant que je publie. Hein. Et je me souviens très bien de l'espèce d'électrochoc, alors qui vient aussi avec la lecture de la poésie japonaise, qui était liée à un album de Jean-Louis Murat qui s'appelait Le Manteau de Pluie du Singe. Le Manteau de Pluie du Singe, c'est un poème de Basho. Et c'est comme ça que quand ça m'intéressait à la littérature japonaise et à la poésie japonaise et au haïku, etc. Et tout converge vers quelque chose qui dit, pour que ça résonne, que ça porte, faut qu'il y ait du silence, quoi. L'économie de moyens, ce qu'on a appelé le minimalisme. Alors, d'ailleurs, on retombe sur, à un moment donné, parce qu'il y avait, à l'époque, c'était Bobin, Holder, Pirotte et tout ça. Alors, il y avait eu un numéro de la NRF, ils appelaient ça les moins que rien, ou les, enfin, au sens vraiment épuré et minimaliste, quoi. Et si on regarde bien, le premier roman que je publie, je ne t'en fais pas, c'est même trop de mon point de vue aujourd'hui, mais c'est vraiment à l'os. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas un mot de. Ah si! Il y a du superflu parce qu'il y a des listes de courses, mais par exemple, typiquement, il n'y a pas de discours pour faire ressentir ce que c'est que la vie d'une caissière. Il y a le défilement des produits sans un mot de commentaire, et après, c'est tout est comme ça à l'os. Il y a énormément de sous-entendus, et cette veine-là, elle va durer jusqu'à passer l'hiver, en fait, où je suis dans cette veine-là. Et ensuite, je me souviens qu'à un moment donné, je lis à la fois À la recherche du voile noir de Rick Moody. Histoire d'une vie d'Aaron Appelfeld. Il y a une vie française de Jean-Paul Dubois qui sort. Quelque chose va m'emmener, après ces livres, vers la recherche du son que produit la confession ou l'autobiographie. Sachant que moi, j'en ai jamais écrit. Hein, que je fais semblant d'écrire des fois des livres qui ont... C'est très roublard, mais je cherche à troubler le lecteur et de manière à ce que le son que je produis par la voix qui s'exprime lui laisse penser vraiment que ça, c'est pas de la fiction, c'est pas un personnage, c'est l'auteur qui parle directement, qu'il n'y a pas de filtre. Et donc voilà aussi encore une trinité de livres qui, au même moment que je lis au même moment, qui ont infléchi. Et ça, par exemple, ça va définir un cycle de livres chez moi, qui est Falaise, Les vents contraires, Les lisières, Le parti de badminton, où en général le héros s'appelle Paul et où je fais semblant de jouer avec l'autofiction alors que ce sont des fictions. Mais il y a l'idée à ce moment-là que les livres autobiographiques produisent un son unique. C'est vrai des livres de Carrère, c'est vrai... Et j'essaie de trouver ça.
Des vents contraires d'Olivier Adam. La sourde angoisse des dimanches soirs est retombée sur tout ça comme un voile. Ça ne m'a pas alarmée. Le lendemain, l'école reprenait et ce serait mon premier jour. C'était même rassurant d'être prise à la gorge par un sentiment si familier, identifiable et dont on connaissait la source. Une sensation qui vous remontait de l'enfance. En pyjama, les cheveux mouillés, on dînait devant la télévision. Après les frites du samedi midi, les hot dogs du soir et le rôti du dimanche, le repas lui-même avait quelque chose d'austère et indiquait qu'on reprenait le cours des choses. Devant notre assiette, tout nous paraissait soudain rétréci. Nos poumons, la dimension des pièces, le temps lui-même.
Pour rester dans l'imaginaire du son, vous citiez des compositeurs, des paroliers, des interprètes. Quel livre pourrait être une formidable matière à chanson, selon vous ?
En tout cas, il y a un auteur qui a réussi à traduire, et c'est très difficile, sa littérature en chanson, c'est Philippe Djian. Et c'est un exemple assez rare. C'est-à-dire que moi, quand j'essaie d'écrire des chansons, je n'arrive pas à transmuer
la musicalité
de ce que j'écris en littérature. En chanson, dès que j'écris des chansons, je fais du sous machin. Je fais du sous Bachung, du sous Murat, du sous Dominica, du sous Miossec, ça dépend des jours. Mais je n'arrive pas à choper mon propre son. Djian, c'est dingue. Et en même temps, ça se comprend au sens où il n'arrête pas de le dire, que le seul truc qui l'intéresse, lui, enfin, il élude toujours l'intrigue, la psychologie, tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est la phrase, c'est le rythme, c'est la musicalité de la phrase, c'est la scansion, la rythmique et tout ça. Et la phrase qui tombe, quoi, et qui tombe comme une chanson. Donc effectivement, et en lisant le dernier Djian, Double Nelson, j'étais frappé par ça. Je me suis dit, voilà un livre dont le moteur, c'est la musicalité de la phrase, quoi. Et l'enchaînement des phrases, comme dans la chanson.
Puisqu'on parle de musicalité des phrases, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que vous aimeriez pouvoir lire dans sa langue ?
Bah tous, hein. Enfin, moi, je lis énormément de littérature étrangère et on finit parfois par se demander pourquoi nombre d'auteurs américains ont l'air de sonner un peu pareil. Et pareil pour la littérature japonaise, je lis beaucoup de littérature japonaise. Et on se dit, est-ce que c'est comme une école, quoi, disons ? Ou est-ce que c'est... ce filtre de la traduction, qui est comme un entonnoir, qui réduit un tout petit peu les différences. Alors bon, je vais en citer un quand même. Par exemple, chez Sandro Veronesi, par exemple, il m'a l'air d'y avoir une énergie de la langue et une verve et une vitalité. Les traductions sont très bien, mais j'ai l'impression que dans la langue, ça serait du fait de la musicalité de l'italien. Je me dis que ça doit être encore plus rythmé.
C'est dommage, on parle de musicalité, la seule musicalité qui nous entoure est le bombissement des motos et des voitures. Est-ce que vous êtes du type à offrir beaucoup de livres à votre entourage ? Est-ce qu'il y a un livre que vous avez envie d'offrir à tout le monde ?
Oui, mais de toute façon, par paresse aussi des fois, parce que ça m'évite d'aller chercher dans d'autres genres de magasins, mais par conviction aussi. Et puis, alors à part si, évidemment, si ce sont des proches qui ne lisent pas, je ne vais pas les torturer, mais globalement, c'est quand même le cadeau numéro un que j'offre autour de moi en permanence, que ce soit... dans ma famille, mes amis. Alors, mes enfants, ça n'a même plus tellement de sens parce qu'on va en librairie et puis on achète des livres. C'est même plus
la question
de cadeaux. Lequel ? Ben non, mais c'est en général...
Récent.
Ben là, je viens de finir un livre chez Christian Bourgois, un premier roman de Salomé Kinner, ça s'appelle Grande Couronne. Ben ça, je sais que c'est un livre que je vais offrir tout simplement parce que je l'ai trouvé enthousiasmant et que je trouve... D'un coup, c'est une nouvelle autrice comme ça qui surgit avec une espèce de style très affirmé. Et ça me plaît beaucoup. Il y a un livre que j'ai lu cet été qui a un titre en français vraiment abominable. C'est Tout le bonheur du monde. On ne peut pas faire un titre plus niais, mais qui est un livre de Claire Lombardo chez Rivage. Et ce n'est pas le titre du tout initial. Et ça, c'est une espèce de grande saga familiale un peu genre This Is Us pour ceux qui connaissent la série, mais en littérature. Et c'est vraiment... c'est un livre que je vais... Je sais déjà qu'à Noël, là, je vais l'offrir partout autour de moi. Quoi. Un livre que je veux offrir aussi, un livre que j'ai envie d'offrir tout le temps, c'est tout le cycle de l'Amie prodigieuse, par exemple. Je trouve que l'Amie prodigieuse, c'est prodigieux. Je trouve vraiment que c'est tellement devenu un objet populaire, entre guillemets, de littérature, qu'il y a presque une petite distance. Oui, c'est très bien, mais c'est pas les livres que les auteurs, par exemple, vont citer tout de suite comme un des grands chefs-d'œuvre de ces dernières années. Il faut toujours être un peu plus snob et tout ça. L'Amie prodigieuse, le cycle des Amies prodigieuses, pour moi, c'est un des grands chefs-d'œuvre de ces dernières années.
Sur cette dernière recommandation, merci Olivier Adam.
Merci à vous.
Votre dernier roman, Tout peut s'oublier, sorti chez Flammarion en janvier 2021. Il nous transporte entre la Bretagne, Kyoto, la baie d'Hiroshima, magnifique baie, sur les traces d'une mère japonaise et de son fils disparu. Ce Qu'est-ce qu'il y est terminé ? Cette série de podcasts enregistrés au Salon du Livre du Mans est à retrouver sur lemonde.fr et sur les plateformes habituelles d'écoute de podcasts. À bientôt, bonne lecture.